Welcome to the GAC Files, a podcast about the people, issues, and ideas driving Global Affairs Canada.
Bienvenue dans les dossiers d'AMC, un balado sur les personnes, les défis et les idées qui animent Affaires mondiales Canada.
Les employés recrutés sur place, ou ERP, vous allez nous entendre peut-être utiliser ce terme pendant l'épisode, représentent près de la moitié de l'effectif total d'Affaires mondiales Canada et les trois quarts du personnel des missions à l'étranger. Donc, ces employés-là, on les embauche localement à travers le réseau de 178 missions dans plus de 110 pays et juridictions à travers le monde. Lorsqu'on utilise le terme « mission », là, on parle ici des ambassades, des hauts commissariats et des consulats canadiens dans le monde entier. La plupart des employés recrutés localement sont des ressortissants du pays où se trouve la mission, mais il y a aussi des personnes qui ont, par exemple, une double nationalité ou même des Canadiens qui travaillent à l'étranger. National Public Service Week is a great occasion to highlight and celebrate unique contributions of locally engaged staff. Even if legally locally engaged staff are not public servants, they are employees of the Crown and are really the backbone of our diplomatic and consular missions abroad. Through the various functions they perform at missions, whether as gardeners, senior consular officers, or people responsible for organizing important events or visits, they really support and contribute to serving Canada and Canadians through their meaningful presence abroad. Bonjour et bienvenue à l'épisode 54, Employés recrutés sur place, servir le Canada dans le monde entier. Mon nom est Emmanuel Tremblay et je serai votre hôte aujourd'hui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons entendre trois de nos ERP qui travaillent dans différentes régions du monde. Tout d'abord, Blanchine Mazanga, qui vient de Kinshasa, qui vit et qui y travaille à notre ambassade depuis 13 ans. Nous recevons aussi Bjørn Hernes, qui est agent politique à notre ambassade à Oslo depuis plus de 30 ans. C'est notre vieux routier du panel. Et enfin, Caroline Urlacher, qui travaille depuis quelques années à notre ambassade à Managua, dans le domaine du consulaire. So first and foremost, we will ask Blanchine Mazanga from Kinshasa to introduce herself.
Merci beaucoup, Emmanuel. Je suis Blanchine Mazanga. Je suis employée recrutée sur place ERP à l'ambassade du Canada à Kinshasa, en République démocratique du Congo. J'ai rejoint l'ambassade il y a 13 ans dans la position de Common Service Officer, gestionnaire des services communs. Je chapeaute à côté de l'AGC, l'agent gestionnaire et consulaire, toutes les équipes qui sont liées à la logistique, à l'admin et aux finances, aux ressources humaines et au procurement à l'ambassade. Avant d'arriver à l'ambassade, j'avais fait presque 7 ans dans ma carrière professionnelle, toujours dans des positions de gestion opérationnelle, vraiment liées à la logistique, à la gestion de ressources humaines et à la passation de marché en Afrique du Sud et en RDC. Et en avril 2009, j'ai rejoint l'équipe de l'ambassade pour superviser toutes les équipes. Nous sommes ce qu'on appelle une petite ambassade, mais on est à 16 employés et notre équipe, mon équipe de services communs, on est la plus grande partie des ERP, des employés recrutés sur place, parce qu'on est à peu près à 8. On soutient les programmes de l'ambassade en termes de prestations de services.
Merci beaucoup, Blanchine. So, over to Bjørn to introduce himself. So, Bjørn, the floor is yours.
Thank you, Emmanuel. Great to be here. My engagement with Canada started back in 1986 when I started university at Carleton in Ottawa. And then right off university, I started working at the embassy. So I don't know anything worse or anything better, I guess. I started up working in consular. And over the years, I've done some driving, mowing the lawn and anything from that up to attending a state dinner at the palace in Norway during a state visit. So I currently work both in foreign policy and diplomacy services, political, public affairs, and I also work partly with the trade side of the mission on creative industries and education marketing. And this is what I've done for basically the last 30 years. Yeah.
Thank you, Björn. In French, we say homme à tout faire, you can do anything. Now we'll turn over to Caroline to introduce herself. Bonjour, Caroline.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée pour ce podcast. Je suis Caroline Hurlacher. Je suis employée recrutée sur place à l'ambassade du Canada au Nicaragua, précisément à Managua. Présentement, je suis adjointe des services communs, administratifs et consulaires. Avant ça, je travaillais à l'ONU, mais aussi pour le Canada, au centre de demande de visa pour le Canada. J'étais responsable du bureau de demande de visa au Nicaragua. Et j'ai aussi fait un intérim en consulaire pendant un an. C'était mon premier poste à l'ambassade en 2012. Donc, c'est là où j'ai commencé à travailler pour le Canada. Et c'est ce qui m'a retenue depuis ce jour jusqu'à maintenant.
You all have a connection to Canada now. For some of you, it's a longer lasting connection than others. But I'd like to know what makes you want to work for Canada and promote Canada in the world as part of your work. What are the elements of Canada that you like and that really made you wish to work for a Canadian mission abroad?
Ce qui m'a vraiment plu de travailler pour le Canada, c'est surtout les valeurs éthiques du Canada qui sont reflétées sur le travail, sur les collègues, sur la façon de travailler au gouvernement, en administration. La bureaucratie existe partout. Ça, on le sait, mais il y a beaucoup de, on va dire, dans une micro-mission comme la nôtre, on est tous collègues. Il n'y a pas ce sentiment vraiment de hiérarchie où les personnes sont inaccessibles, surtout au moment où il y a de crise ou de besoin. Nous sommes vraiment tous soudés et il y a beaucoup d'entraide entre nous, que ce soit les employés canadiens appelés CBS et les LES.
For me, even though it will sound a little bit cliché to say that, because most of the people, it's what they say when we ask them, what do you want to go to Canada? What do you like Canada? La plupart des gens parlent toujours des valeurs humaines, des valeurs démocratiques, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Because when I joined the embassy, I was working for Nokia International. It was a multinational. Et c'était très orienté aussi, la culture apprenante, très orienté, une dynamique vraiment compétitive, etc. Et quand je suis venue à l'ambassade, j'ai retrouvé ça. Et pour moi, c'était assez étonnant parce que je me disais, ambassade, ça reste quand même la fonction publique, mais j'ai retrouvé toute cette dynamique ouverte à l'apprentissage, accès à apprentissage, orienté résultat. Et travailler à l'ambassade, pour moi, ça m'a permis de voir qu'on peut être un État, on peut être la fonction publique, mais être vraiment, vraiment fondé sur la bonne gouvernance, fondé sur la gestion efficace des ressources, sur le développement du capital humain pour faire avancer une nation ou même une organisation. Donc, for me, that was the key point for me to join the embassy.
I mean, as I mentioned earlier, I started, you know, mid-80s and in my engagement with Canada, and You know, ever since then, I've always say that I've either lived in or worked for the best country in the world. So that's a pretty fortunate situation to be in. I think when I started working for the embassy, I had a very sort of strong sense that there was a lot to learn from each other between Canada and Norway. Both are, you know, very engaged internationally and are somewhere in between sort of a the American dream and the European whatever. So I think for what Canada, I think, you know, one of the sort of major attractions and was also the fact that, you know, Canada is somewhere in between Europe and the United States. I think that and bringing some of that free entrepreneurial spirit from North America and marrying it to the more sort of older European traditions and so on and so forth, I think was kind of it's been a draw for me. And of course, my, you know, my love for Canada is something I want to share with my fellow Norwegians. And you know, and then there's so many interesting files, you know, here with Norway, anything from the Arctic to multilateral and so on and so forth, working with indigenous peoples in Canada and in Norway. So it's a very, you know, I feel very fortunate.
Donc, il y a cette réalité double et complémentaire entre la stabilité et le changement. J'aimerais vous entendre sur ce que vous voyez comme étant des opportunités et peut-être des risques associés à cette cohabitation entre deux parties de l'effectif d'Affaires mondiales Canada.
Moi, je pense que l'élément positif que je tirais ça, et c'est là où on peut vraiment dire que Affaires mondiales Canada nous donne l'opportunité d'expérimenter ce qu'on appelle le multiculturalisme parce que le Canada, c'est vraiment ça. C'est la diversité culturelle et en étant un employé recruté sur place, on est directement exposé à ça à chaque rotation parce que vous avez toute cette diversité culturelle d'immigration qui se retrouve dans ces positions d'employés canadiens. Et ça vous permet d'expérimenter des Canadiens d'origine africaine, des Canadiens asiatiques. Et c'est vraiment un aspect très enrichissant pour une personne de se dire que j'ai eu l'opportunité d'être exposée to so many nationalities coming from one country. And for me, that's the best part of it. Mais la force de la dynamique des employés locaux et des employés canadiens, c'est justement cette diversité qui se retrouve, ces expériences qui se retrouvent pour le bien du Canada dans chaque pays.
Nous savons très bien que en général, tout est très encadré, tout fonctionne, on va dire, assez rapidement, assez bien. En général, mais en mission, surtout dans des missions compliquées, ils ont besoin d'un moment de quelques mois d'adaptation et de voir que les choses doivent se faire des fois différemment. Donc, nous, en lieu d'essayer de suivre un protocole qui est déjà établi ou défini, nous, on doit chercher les façons d'arriver à un résultat, enfin, le résultat du travail que nous devons faire, mais en s'adaptant. Donc ça, des fois, c'est un défi pour eux, mais à la fin, nous, on est là pour leur expliquer, pour leur dire, et surtout pour les aider dans ce processus d'adaptation et aussi d'apprentissage, surtout de ce qui est la réalité du pays, en fait, là où ils sont, où ils arrivent.
So, if I understand you well, locally engaged staff often serve as interpreters, and interpreters not only linguistic interpreters, but social and political and ethnographic interpreters. So, Björn, would you like to say a few words about this connection between Canada-based staff, so the diplomats and the locally engaged staff?
I think we have to recognize also as locally engaged staff that it isn't always easy for Canada-based staff to come to a mission, new country, bringing a family and whatnot, and you know, and then sort of maybe not having the adequate or training or, you know, preparations before coming and whatnot. So it's quite easy to fall in a trap. You become critical. So I always make sure or try as much as I can to sort of give time, both for my own kind of reaction to new people, and also for them to sort of get to know under me. And it's a little bit about engaging on various levels as well, on both parts. And I think, it's often said that the LES is sort of the hard disk, and of course, or you know, as the as the sort of the corporate memory and whatnot, I always say that I don't feel like and don't want to be thought of as a hard disk. Sorry, that didn't come over so well. But anyway, I think that's part of the thing. It's also in recognizing, the active role that LES do play in missions. And I think one of the other things that's quite important as well is for headquarters to see the same.
How has the work of LES evolved over time, and how has technology, for example, changed the work that locally engaged staff perform or how they perform their work? So maybe you have a few stories for us.
Well, I think, like I mentioned already in the beginning, when I started working here, I had an electric typewriter, and now we're on to Office 365. So obviously there's been a big technological shift. But I was thinking about this a little bit because yesterday this is a new transformation announcement with Global Affairs Canada as well. And I was thinking, over the years, and if I look, I have files from my predecessor who started working here in 1950 something or other, and if I look at them, what we actually do today compared to what they did in, the 50s and 60s isn't that different. What we actually do, it isn't such a big difference in terms, but it's more around how we do it, right? It's more as different ways of gathering information about, local politics in Norway or whatever. In the old days, you'd go and have, meetings with the political parties and, before an election, and then you'd write a report about politics. But nowadays, you read online blogs and you go to seminars and all that kinds of things. So it's so that, that the core of what we do, servicing or like being a service to Canada here in Norway, hasn't changed all that much. We do cultural events, we do education. I mean, we have, we issue passports, we do all these kind of things that, help Canadians who live here and so on and so forth. But it's just more the way we're doing it, like the tools we have. But Canada was quite early on adapting or this on foreign affairs, with email. And I remember my ambassador at the time was sort of really scared, what's going to happen? I don't have control of this. But, did not realize that actually we had telephones we could use as well. So I mean, it wasn't that a big deal, but I spoke to a Norwegian embassy at some point in time as well. They had like one machine that had email, and this was several years after we had email, right? They have to sort of run over to that machine and sort of send email. So I mean, so yes, total change in that way, but like I said, why we're here and what we're doing hasn't changed a lot over the years. And so I think that's kind of summed it up in a way. Yeah.
Oui, j'ai juste une petite chose à ajouter. Pour moi, c'est moi qui suis une personne, j'essaye de suivre aussi. Je sais que le Canada est très, très accentué sur ça, sur l'écologie. Donc pour moi, c'est vraiment... Quand je vois tous les archives en administration que nous gérons, tous les paiements qui sont en papier, donc tous les ans, on doit brûler des centaines de boîtes d'archives. Donc maintenant, avec la digitalisation, j'essaye d'utiliser le moins de papier possible. Et aussi, pour le travail consulaire, ça nous a tellement facilité la tâche. Car pour pouvoir contacter les personnes qui sont enregistrées dans le système consulaire, nous savons qu'ils sont dans le pays. C'est un système qui vraiment nous a facilité la tâche au niveau consulaire pour pouvoir avoir un contact avec les Canadiens et la communication est vraiment plus facile pour nous. Je pense que ça, c'est deux choses qui ont beaucoup changé et dans le positif.
So relying on technology has brought some fluidity that didn't exist before, and that is not only for your work as locally engaged staff, but it's also servicing Canadians and Blanchine. Vous aviez aussi quelque chose à dire là-dessus.
Donc, ce que moi, j'aimerais souligner, c'est que le cadre du travail des RP n'a pas vraiment évolué au fil des années. Les aspects technologiques, comme Bjorn l'a dit, ont évolué parce que c'est la dynamique même en société. Mais ce que moi, j'ai remarqué qui a quand même évolué au niveau de global, de affaires mondiales, it's the, we can see that now GAC has the willingness to listen to the LES. Parce que since 2019, I think it was the first time we had a LES symposium, a symposium that actually gathered the LES from all around the world, because we knew that we are the workforce. But when you say that, it's like you are using us. Just do the job, and that's what we are expecting from you guys. Mais depuis 2019, on a vu quand même une dynamique de, OK, vous êtes là, mais on veut vous écouter. On veut voir comment on peut améliorer votre cadre de travail, améliorer votre sentiment d'appartenance à Affaires mondiales Canada pour que vous soyez plus que juste des employés, mais que vous fassiez partie de la famille réellement.
Blanchine was mentioning the symposium in 2019, and really, I mean, you know, that sort of the group of, was it 50 or so locally engaged staff from all over the world, with all just working for Canada, and it was just a tremendous energy, and it's to me, it's quite important that, you know, there is that sort of chain of contact and link directly from LES admissions to, you know, key divisions and whatnot at headquarters at Global Affairs, and being able to sort of highlight, you know, the contributions of the LES, and also sort of, you know, and engagement also locally engaged staff in some of the work that's being done at headquarters, I think is really important. You know, we have had some work on the trade side. There's been some engagement with LES as well. And also, I myself have been part of a project office under the deputy ministers, you know, working on harassment and trying to prevent that, but, you know, engaging also LES. And I think that's a very big step forward in the relations between LES, locally engaged staff, and headquarters. It's very far away, and most haven't been there. And I think also for the staff at headquarters, sometimes local English staff are also quite removed from them. So I think it is sort of bringing that some more closeness and direct contact is super important.
Est-ce que vous pourriez partager avec nous un moment qui est vraiment très mémorable pour vous? Though maybe share a meaningful moment for you, and this may be an occasion to also explore the diversity of your experiences, depending on what you do at the mission.
Well, I mean, there are so many over the years, but one that I sort of keep coming back to is back in 2004 or something like that. There's a festival in North Norway called the Ridu Ridu Festival, which is a Indigenous performing arts festival. And that year they had a focus on the Inuit from Nunavik. So, and it's a, you know, small remote place with no hotels. So it was me and my colleague from the Quebec House in London. We went up to represent Canada and Quebec. And so we ended up staying at someone's home, but we had to share a room, actually. So it was one of their kids' rooms. So being a good Federalist, I let him sleep in the bed, and I slept on the floor. And as part of this festival, there's also a big, the featured people, they would have a day of cooking, right? And so they have brought, they would normally bring some caribou, but in northern Norway, it's the reindeer, which is a relative of this. And so they were supposed to, you know, the delegation from Nunavik was supposed to, you know, prepare some dishes. And so we went up to the school to help out, and we came there. And then a Sami, which is an Indigenous person from Norway, or this part of the world, came in with the, you know, the carcass or the, you know, the, you know, a reindeer and just threw it on the table. And there is one guy lived in Oslo and the other one lived in London. White, you know, was looking at thing, what do we do with this? Because there was no one else there to help us at the time. So it was quite a bit of a sort of sentiment. Eventually, you know, some of the ladies from Nunavik came in and they sort of showed us how to chop the animal up and, you know, get the bone marrow and whatnot. And it ended up being a good experience in the end. But it was that sort of sight they must have had of these two guys just looking at that, not knowing what to do. It was kind of a memorable moment from my side anyway.
Le souvenir qui m'a le plus marqué parce que souvent, on est plébiscité pour le travail, on fait bien le travail, we deliver. Mais ce qui m'a vraiment touchée, c'est quand j'ai repris les études en 2015 pour faire un master et j'en ai parlé à ma supérieure de l'époque, une dame merveilleuse, Marie-Claude Fouché. Elle m'a dit « Oui, je t'encourage, vas-y ». C'était difficile pour moi parce que je finis à 16 heures, je reprenais les cours à l'extrême de la ville à 17 heures. Finir à 21h, j'arrive chez moi à 22h, le lendemain je dois être au bureau à 7h30 et j'ai été dans ce rythme-là pendant 2 ans et à la fin je devais faire la présentation de ma thèse. Le jour J, j'ai signalé à ma superviseure que je devais aller, elle m'a encouragée, je suis partie. Mais ce qui m'a vraiment touchée, c'est cette partie humaine qui parfois manque entre employés canadiens et ERP. Et le fait que les gens le manifestent, ça reste des moments mémorables. Je pense que mes collègues seraient d'accord avec moi. Donc, je rentre au bureau et je trouve sur ma table un bouquet de fleurs avec une petite note. Et c'était elle, ma superviseure, qui me l'avait acheté et qui m'avait dit « On est très, très fiers de toi ». Et je me suis dit « Ça, c'est merveilleux parce qu'au-delà de ce qui est attendu de nous en tant qu'employés, collaborateurs, we can say that… » Somewhere, they also value the person that we are, and they also are there to actually be there for us when we need it, when it's not work-related. C'est ça vraiment mon expérience la plus mémorable.
Et alors pour moi, l'expérience la plus mémorable dans tous les sens, c'était justement il y a 2 ans, les vols d'évacuation. Que nous avons dû organiser. Enfin, le Canada les a organisés et nous devons évacuer les Canadiens qui étaient en tant que nous sommes que 3 personnes en administration et consulaire dans la mission. Donc pour 3000 Canadiens, on va dire que c'est quand même beaucoup. Donc, entre nous, nous avons pu faire les listes, gérer les vols, gérer les… C'était vraiment un travail très, très, très compliqué. Tout le monde avait plusieurs fonctions dans plusieurs domaines. Ça nous a vraiment permis de nous surpasser et de surpasser notre propre stress parce que c'est vrai qu'en temps de pandémie, en plus de crise sociopolitique, il y a tout en même temps, nous sommes vraiment très stressés dans notre vie personnelle et c'est comme si on laissait ça de côté pour aider. Faire notre travail. Un mois après, bien sûr, nous avons reçu les félicitations de HQ, de la centrale, en disant qu'ils savaient qu'une micro-mission qui a pu gérer une situation aussi compliquée, c'était quand même cette reconnaissance pour nous, c'était très. C'était très apprécié, voilà.
Thank you so much to all of you. It's been really great having you all here today to share your stories. It's been a pleasure, Blanchine, Bjorn, and Caroline. Thank you so much for your time. And I should also point out that not only do locally engaged staff serve GAC missions, but it's really a whole of government workforce. Thank you so much for listening, tuning in, and see you soon. Talk to you soon.
GAC Files is a production of Global Affairs Canada. All opinions expressed in this podcast are that of the individuals and not necessarily that of their employer or Global Affairs Canada. For more information on locally engaged staff, visit www.international.gc.ca. Be sure to subscribe to our podcast, and thank you for listening to GAC Files. Les dossiers d'AMC sont une production d'Affaires mondiales Canada. Toutes les opinions exprimées dans ce balado sont celles des personnes concernées et pas nécessairement celles de leurs employeurs ou d'Affaires mondiales Canada. Pour plus d'informations sur les employés recrutés sur place, visitez le www.international.gc.ca. N'oubliez pas de vous abonner à notre balado et merci d'avoir écouté les dossiers d'AMC.